La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font. Avec les conseillers Laurence Pecot-Rivolier et François Pillon.
Alors, comme chaque mois, nous allons faire un focus sur l'actualité. Et plus précisément, dans ce podcast de novembre 2021, nous allons évoquer les questions de covoiturage, de rupture d'un contrat aidé, de clause de non-concurrence, et on va développer, à travers l'exemple d'un salarié infirmier, la notion d'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Commençons donc par l'actualité de la Chambre sociale. Alors, trois décisions récentes ont retenu notre attention. La première a trait au covoiturage. De très nombreux salariés ont recours au covoiturage. Qu'est-ce que le covoiturage d'un point de vue juridique ? Et est-il possible d'assimiler le covoiturage à un transport en commun ?
Effectivement, c'est à cette question que la Chambre sociale a dû répondre pour la première fois le 15 septembre dernier. Dans cette affaire, nous avions une convention collective qui prévoyait la prise en charge par l'employeur des indemnités de grands déplacements pour les déplacements effectués dans des lieux ne bénéficiant pas de transport en commun utilisable, c'était les termes utilisés par la convention collective. Pour refuser le paiement de ces indemnités, l'employeur soutenait que l'on pouvait assimiler le covoiturage à un moyen de transport en commun utilisable.
Oui, si je comprends bien, l'employeur considérait que comme le covoiturage dispensait le salarié d'utiliser son véhicule personnel ou de rechercher une solution individuelle pour se déplacer, il n'avait pas à payer l'indemnité de grand déplacement.
C'est tout à fait ça. Alors pour répondre à cette question, la Chambre sociale s'est référée au Code de la route et au Code des transports qui contiennent une définition du covoiturage selon laquelle le covoiturage est l'utilisation en commun d'un mode de transport individuel. Il s'agit donc bien d'une solution alternative au transport en commun, mais qui ne peut pas se substituer à eux. Et on comprend bien pourquoi. Les conditions qui sont liées à la régularité, à la stabilité, à la sécurité des deux modes de transport ne sont évidemment pas du tout identiques. Si bien que la Cour de cassation en déduit que le salarié peut réclamer l'indemnité conventionnelle pour ses déplacements dans des lieux ne bénéficiant pas de transport en commun, même s'il a pu utiliser un covoiturage.
Alors, le second arrêt relatif à ces contrats, qu'on classe dans la catégorie contrat aidé, et ici, plus particulièrement, la Chambre sociale s'est penchée sur le contrat emploi-avenir.
Absolument. Les contrats emploi-avenir sont des contrats qui ont été créés par une loi de 2012 pour faciliter l'accès au marché du travail de jeunes peu qualifiés. Les employeurs qui embauchent des jeunes sous ce dispositif pouvaient bénéficier en contrepartie d'une aide de l'État. Ce dispositif a eu un grand succès. Il y a eu plus de 300 000 contrats qui ont été passés sous ce régime. Il n'existe plus depuis 2018 parce que tous les contrats dits aidés ont été regroupés sous un nouveau dispositif qui s'appelle le parcours emploi compétences.
Alors c'est du vieux droit l'arrêt du 13 octobre dernier, il n'a plus d'actualité.
On ne peut pas dire ça non plus. D'abord parce qu'il y a encore des contrats emploi à venir qui se poursuivent, même si on ne peut pas en signer de nouveaux. Et ensuite et surtout peut-être parce que la solution de principe qui est mise en œuvre par cet arrêt du 13 octobre 2021, s'agissant de la rupture des contrats emploi à venir, peut être tout à fait utile dans d'autres circonstances et pour d'autres dispositifs d'emploi aidé.
Alors, les contrats emploi à venir pouvaient être signés pour une durée indéterminée et à durée déterminée pour une durée de 3 ans maximum ?
C'est tout à fait ça. Il y avait le choix entre ces deux types de contrats. S'ils étaient signés pour une durée déterminée, la loi prévoyait qu'il y avait des possibilités de rupture anticipée. Mais elle prévoyait aussi un cas de rupture assez hybride parce que c'est normalement celui qui est prévu pour rompre un contrat à durée indéterminée. Il était possible de rompre le contrat à durée déterminée pour une cause réelle et sérieuse. Sauf que la loi ne précisait pas quelle était la sanction d'une rupture d'un contrat à durée déterminée lorsqu'elle était prononcée par l'employeur pour une cause soi-disant réelle et sérieuse, mais que le juge estimait que cette cause réelle et sérieuse n'existait pas.
Et dans cette hypothèse du silence du législateur, que décide la Chambre sociale ?
Eh bien, du coup, elle va appliquer les règles qui sont habituellement celles du contrat à durée déterminée de droit commun. On sait que lorsqu'un employeur rompt un contrat à durée déterminée en dehors des cas qui sont prévus par les textes, le salarié a droit à une indemnité d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, et pas seulement à des dommages et intérêts. Les règles sur la rupture anticipée illégitime du contrat à durée déterminée sont très strictes et la Cour de cassation est très vigilante sur leur application. Eh bien, dans cet arrêt du 13 octobre 2021, elle décide que, sauf si le législateur prévoit une disposition contraire, on applique les mêmes règles que le salarié soit en contrat à durée déterminée de droit commun ou qu'il soit en contrat à durée déterminée sur un contrat aidé. C'est très important d'avoir cette solution à l'esprit.
Alors, on termine cette revue d'actualité par une décision que la Chambre sociale a également rendue le 13 octobre dernier et qui posait la question de savoir si le juge peut moduler le montant de l'indemnité que l'employeur doit verser au salarié qui respecte la clause de non-concurrence.
Oui, alors un petit rappel sur la clause de non-concurrence. Ces clauses-là sont valides, mais à la condition que deux conditions soient respectées. D'abord, il faut que la clause de non-concurrence soit circonscrite dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'une clause de non-concurrence empêche un salarié de trouver un emploi définitivement et sur tout le territoire national. On va regarder la possibilité pour une clause de non-concurrence de s'appliquer dans le temps et dans l'espace en fonction de la réalité de la catégorie d'emploi du salarié et ça va être du cas par cas. Deuxième condition. À partir du moment où on est sur une restriction faite au droit à l'emploi du salarié, il faut que cette clause soit compensée par une indemnité qui est versée par l'employeur au salarié et qui va être versée à la fin du contrat de travail, précisément au moment où la clause de non-concurrence va prendre effet.
Mais alors cette indemnité est assimilée à un salaire ?
Absolument, c'est ce que décide traditionnellement la Cour de cassation qui dit que l'indemnité qui est la contrepartie de la clause de non-concurrence, est assimilée à un élément de rémunération. Elle donne même lieu au paiement de l'indemnité de congé payé. Et à partir du moment où c'est un élément de rémunération, cette indemnité n'a pas la nature d'une clause pénale. Vous savez, ces clauses pénales, ce sont ces indemnités forfaitaires qui peuvent être prévues par un contrat, mais que l'on peut demander au juge de modifier si elles apparaissent manifestement excessives au regard des circonstances. Ce n'est pas le cas pour l'indemnité de clause de non-concurrence, puisque c'est un salaire. Le juge ne peut absolument pas la modifier, ne peut pas la réduire, quelles que soient les circonstances.
Alors le seul moyen est de renoncer à cette indemnisation.
Ah oui, mais à ce moment-là, il faut que cette renonciation soit réciproque. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que l'employeur renonce à l'application de la clause de non-concurrence et qu'à ce moment-là, le salarié accepte lui-même de renoncer à l'indemnité qui était la contrepartie.
Et alors, que se passe-t-il si le salarié ne respecte pas son obligation de non-concurrence ?
Ah bien, dans ce cas-là, il commet une faute. Il doit rembourser les sommes qu'il a reçues en contrepartie de la clause de non-concurrence. Et il peut aussi devoir éventuellement une indemnité qui aura été prévue par le contrat à titre de sanction. Pour le coup, cette indemnité qui peut être due par le salarié a la nature d'une clause pénale, ça n'est évidemment pas un élément de rémunération, si bien que le juge pourra éventuellement l'ajuster s'il estime qu'elle est manifestement excessive au regard des circonstances.
Alors vous retrouverez les commentaires de ces trois arrêts à la lettre de la Chambre sociale numéro 9 du 15 novembre 2021. Et nous poursuivons la sociale Le Mag avec notre décryptage.
Pour ce premier numéro de la sociale Le Mag, nous avons choisi de décrypter ensemble une décision que la Cour de cassation a rendue le 23 juin dernier et qui porte sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Concrètement, il s'agit de savoir dans quelles conditions un employeur qui a déjà sanctionné un salarié pour certains faits peut à nouveau sanctionner le salarié pour des faits qui auraient été commis à la même époque. Alors pour bien comprendre, il faut d'abord s'attarder un peu sur ce que signifie la règle d'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Alors, la définition en est assez simple. On parle d'épuisement du pouvoir disciplinaire lorsqu'un employeur a sanctionné un fait fautif commis par l'un de ses salariés. Dans cette hypothèse, et selon une jurisprudence bien établie, l'employeur ne peut plus prononcer une nouvelle sanction pour ce fait qu'il a déjà sanctionné, ni davantage prononcer un licenciement. On constate qu'il a épuisé son pouvoir disciplinaire. C'est l'application, en droit disciplinaire, du principe de procédure pénale, résumé dans la formule latine « non bis in idem », selon lequel « nul ne peut être poursuivi ou puni une seconde fois à raison des mêmes faits ». Autrement dit, il ne peut y avoir pour un même fait cumul de sanctions.
Ah oui, on imagine bien que les conséquences pratiques de cette règle sont très importantes pour l'employeur.
Tout à fait. Ainsi, si l'employeur relève un fait fautif et demande au salarié de faire un effort, l'employeur, qui sera regardé comme ayant adressé un avertissement au salarié, ne pourra plus licencier celui-ci pour le même fait.
Ce qui veut dire que l'employeur doit faire très attention à choisir avec précaution la sanction qu'il applique. En quelque sorte, il n'aura pas de droit au remords.
Certainement. Mais d'abord évoquons deux autres situations pour bien isoler notre problématique d'épuisement du pouvoir disciplinaire, d'autres questions juridiques qui sont souvent évoquées en même temps. D'abord, l'épuisement du pouvoir disciplinaire se distingue de la situation dans laquelle l'employeur ne peut plus sanctionner parce qu'il a laissé s'écouler le délai légal de 2 mois dont il dispose pour prononcer une sanction à compter du jour où il a connaissance des faits. C'est parce qu'il n'a pas agi que l'employeur ne peut plus sanctionner.
Ah oui, alors que l'épuisement du pouvoir disciplinaire implique au contraire justement que l'employeur a agi.
Exactement.
Et alors quelle est la seconde situation que l'on doit différencier de la question de l'épuisement du pouvoir disciplinaire ?
Alors c'est la situation où l'employeur rappelle la sanction disciplinaire pour démontrer la persistance du comportement fautif du salarié ou la réitération de faits anciens. Il ne s'agit pas pour l'employeur de sanctionner de nouveau la première faute, mais de démontrer la gravité de la seconde. Alors une précision, parce que cette faculté de se souvenir est limitée par le Code du travail à 3 ans, au-delà desquels le salarié a droit à l'oubli.
Bon, finalement, la règle de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur est une règle simplement de bon sens. On comprend bien qu'on ne peut pas sanctionner 2 fois un salarié pour le même fait. Mais alors qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'il y a plusieurs faits fautifs et que l'employeur ne va sanctionner que certains d'entre eux, est-ce qu'il lui est possible, par exemple, de décider de sanctionner les autres plus tard ?
Tout d'abord, rappelons que le principe de l'interdiction du cumul de sanctions pour un même fait ne règle pas la situation, puisque nous sommes bien dans le cas de figure où les faits fautifs ne sont pas les mêmes. On parle bien de faits de nature différente. Cependant, ce qui prévaut ici, c'est de ne pas laisser le salarié dans une situation d'incertitude pour des faits dont l'employeur a estimé qu'il n'avait pas causé un trouble suffisamment grave pour entraîner une sanction immédiate. C'est pourquoi, dans cette situation, la Chambre sociale considère que l'employeur qui a connaissance de divers faits fautifs et choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits.
Autrement dit, à partir du moment où l'employeur a prononcé une sanction disciplinaire, l'épuisement de son pouvoir disciplinaire va s'étendre à tous les faits fautifs dont il avait connaissance au moment où il a prononcé la sanction, peu important qu'il ne les ait pas tous sanctionnés.
Exactement. Et c'est pourquoi l'employeur est invité à choisir la sanction au regard du comportement global du salarié.
D'accord. Et alors, quel est le rôle du juge dans l'application de cette règle ?
Eh bien, si le juge est saisi, il va rechercher si le fait fautif sanctionné est nouveau, c'est-à-dire s'il a été porté à la connaissance de l'employeur après la notification de la première sanction. Si tel est le cas, il estimera que la sanction est légale. En revanche, s'il constate que le fait fautif était déjà connu de l'employeur au moment de la première sanction, le pouvoir disciplinaire de l'employeur étant épuisé, il annulera la sanction.
Donc, si je comprends bien, le débat à ce moment-là va se déplacer sur la date à laquelle l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature, de l'ampleur des faits qui sont imputables aux salariés.
Absolument. Et rappelons à cet égard que si une vérification ou une enquête est nécessaire, la date à laquelle l'employeur a connaissance des faits fautifs nouveaux est celle à laquelle les résultats de cette enquête ou de cette vérification sont connus. Et dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que ces investigations complémentaires étaient bien nécessaires.
Et qu'est-ce que la décision que nous commentons du 23 juin 2021 apporte comme enseignement nouveau sur cette question ?
Alors, dans cette affaire, un infirmier salarié fait l'objet d'un avertissement le 4 janvier 2013 pour des absences injustifiées constatées en octobre et novembre 2012. Puis le 4 février 2013, un mois plus tard, il fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, cette fois-ci pour des faits commis en décembre 2012. D'après l'infirmier, la directrice de l'établissement avait épuisé son pouvoir disciplinaire, puisque selon lui, lorsque la sanction d'avertissement a été prononcée, c'est-à-dire le 4 janvier 2013, la directrice avait non seulement connaissance des faits fautifs commis en octobre et en novembre, mais également de ceux de décembre. La Cour d'appel a estimé que tel n'était pas le cas, dans la mesure où la directrice de l'établissement n'avait été informée des faits survenus en décembre 2012 par l'infirmière coordonnatrice, qui était la supérieure hiérarchique directe du salarié, que le 15 janvier 2013, c'est-à-dire après la délivrance de l'avertissement, ce qui expliquait sa réaction en décalage. Ainsi, la décision de la Cour de cassation du 23 juin dernier porte sur le point de savoir qui est l'employeur lorsqu'il s'agit d'une société qui doit avoir connaissance du fait fautif. S'agit-il du seul représentant légal, titulaire naturel du pouvoir de direction et de sanction, dans notre affaire la directrice de l'établissement, ou peut-il s'agir d'un cadre supérieur, hiérarchique du salarié, l'infirmière coordonnatrice ?
Alors on a la réponse très claire à cette question dans l'arrêt du 23 juin 2021, puisque la Chambre sociale affirme que lorsqu'on parle de l'employeur, on parle non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais aussi du supérieur hiérarchique du salarié. Autrement dit, la Chambre sociale opte pour la définition la plus large.
En effet, et donc dans notre affaire, l'infirmière coordonnatrice supérieur hiérarchique du salarié, également considéré comme l'employeur et ayant eu connaissance des faits commis en décembre au moment de la délivrance de l'avertissement le 4 janvier 2013, il appartenait à la Cour d'appel de constater l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Alors la Cour de cassation avait déjà retenu cette position lorsqu'il s'était agi d'apprécier si les faits disciplinaires étaient prescrits. Et ce qui doit retenir l'attention dans cet arrêt, c'est que cette définition, qui témoigne donc d'une conception élargie, est donnée au visa de l'article L1331-1 du Code du travail, en sorte que cette définition de l'employeur est commune à toutes les situations envisagées par le chapitre 2 relatif à la procédure disciplinaire.
D'ailleurs, on en a un exemple dans un arrêt qui a été rendu le même jour, le 23 juin, et qui cette fois-ci était en application de l'article L1332-4 du Code du travail, qui est lui relatif à la prescription des faits fautifs. Dans cet arrêt, la Chambre sociale dit de la même façon que l'employeur s'entend du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais également du supérieur hiérarchique, même s'il n'est pas titulaire du pouvoir disciplinaire.
On a bien dorénavant une définition commune de l'employeur quand il s'agit de l'exercice du pouvoir disciplinaire.
Eh bien, c'est la fin de notre podcast. Nous vous remercions de l'avoir suivi. L'arrêt du 23 juin 2021 peut être retrouvé sur le site de la Cour de cassation. Il porte le numéro de pourvoi 19-24-020. Vous pourrez également retrouver l'ensemble des références des arrêts que nous avons cités dans notre chronique sur le site internet de la Cour de cassation. Merci François.
À bientôt Laurence.